de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonjour, bonsoir, chers auditeurs. Voici les nouvelles d'aujourd'hui. On va parler de la ministre indonésienne des Affaires étrangères satisfaite de l'organisation de l'IAID. Le ministère du Commerce reçoit de nombreuses invitations à l'investissement de plusieurs pays africains. Le discours sur l'imposition de droits de douane sur les importations des matières premières laitières importées de l'Union européenne apporte un message fort et la Guinée équatoriale et l'Indonésie signent un mémorandum d'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. La ministre indonésienne des Affaires étrangères satisfaite de l'organisation de l'IAID, la ministre indonésienne des Affaires étrangères Retno LP Marsudi, a exprimé sa satisfaction pour la mise en œuvre de la conférence sur le dialogue infrastructurel entre l'Indonésie et l'Afrique, qui a donné des résultats concrets sous la forme d'un accord commercial atteignant 822 millions de dollars américains. Retno Marsudi, à l'occasion d'une déclaration à la presse conjointe du ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, et du ministre du Commerce, Enggar Tias Tolu Lukita, au centre des conventions de Nusa Dua Bali, le mercredi 21 août. Et le nombre d'accords commerciaux devrait augmenter à nouveau en raison de l'accord commercial passé en Indonésie. En Afrique, le dialogue sur l'infrastructure n'a pas été enregistré. Selon Retno, le nombre d'accords commerciaux conclus reflète le potentiel de la nation africaine en coopération avec l'Indonésie.
Kita cukup puas dengan pelaksanaan pertemuan ini dengan beberapa alasan. Pertama, kalau kita bicara mengenai hal yang konkret.
Nous sommes très satisfaits de la mise en place de cette réunion pour plusieurs raisons. Premièrement, lorsque nous parlons de questions concrètes, les chiffres présentés hier, l'accord commercial a atteint 822 dollars américains, ce qui n'est pas une mince affaire et cela reflète une fois de plus le potentiel considérable de la collaboration de l'Afrique avec l'Indonésie. Ce qui représente une augmentation par rapport aux résultats de l'année dernière. C'était par jour hier, le 20 août. Après cela, il reste encore un certain nombre de réunions de travail que nous n'avons pas comptées aujourd'hui. Donc encore une fois, nous sommes très satisfaits de la mise en place de cette infrastructure de dialogue. Retenons à expliquer que la mise en œuvre du dialogue sur les infrastructures entre l'Indonésie et l'Afrique avait renforcé la confiance des pays africains en Indonésie. Selon Retenons, la grande confiance des pays africains sous la forme d'une coopération concrète avec l'Indonésie était un pas en avant. À part ça, Retenons a ajouté que la mise en œuvre du dialogue sur les infrastructures entre l'Indonésie et l'Afrique était une occasion pour l'Indonésie et l'Afrique de voir le potentiel de coopération plus clairement dans les secteurs de l'infrastructure, des chemins de fer, des mines, de l'éducation et du tourisme. La ministre Retenons a ajouté qu'en septembre 2019, son ministère donnerait immédiatement suite aux résultats d'un accord conclu entre l'Indonésie et le dialogue sur les infrastructures entre l'Afrique et l'Indonésie. Le ministère du Commerce reçoit de nombreuses invitations à l'investissement de plusieurs pays africains. Le ministre indonésien du Commerce a organisé une série de réunions bilatérales au cours des 2 jours d'organisation du dialogue sur les infrastructures entre l'Indonésie et l'Afrique à Nusa Dua, Bali. Le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, a déclaré mercredi 21 août à la presse avec le ministre de la Coordination des Affaires Maritimes, Luhut Binsar Panjaitan, et la ministre des Affaires étrangères, Retenons Marsudi, à Nusa Dua, autonome de Zanzibar, de Somalie, d'Éthiopie et d'Ouganda. Enggar Tiasto Lukita a expliqué que l'Ouganda avait invité l'Indonésie à investir dans le secteur bancaire, charia et les chaussures en cuir.
Dengan Uganda, kita diundang untuk investasi di sektor sepatu kulit dan juga bank-bank syariah untuk buka.
Par l'Ouganda, nous sommes invités à investir dans le secteur des chaussures en cuir et les banques islamiques à ouvrir des succursales en Ouganda. Et le ministre ougandais a proposé de créer une sorte de service d'assistance pour l'exportation des produits indonésiens. Enggar Tiasto Lukita a ensuite expliqué qu'en répondant à l'offre de l'Ouganda, son parti encourageait la réalisation d'une étude qui passerait ensuite à l'étape de l'étude de visibilité conjointe. Selon Enggar Tiasto Lukita, lors d'une réunion bilatérale avec Zanzibar, région autonome de la Tanzanie, l'Indonésie a été invitée à développer le tourisme à Zanzibar. Lors d'une réunion bilatérale avec la Somalie, l'Indonésie a été invitée à investir dans le secteur du logement. En réponse à l'offre de la Somalie, Enggar Tiasto a déclaré qu'il encouragerait le ministre des Travaux publics et du Logement public à donner suite à la possibilité de construire des logements à bas prix en Somalie. Le discours sur l'imposition des droits de douane sur les importations de matières premières laitières importées de l'Union européenne apporte un message fort. Le ministre indonésien du Commerce, Enggar Tiasto Lukita, a déclaré que son parti n'imposerait pas arbitrairement des droits de douane sur les produits laitiers brous importés de l'Union européenne. Enggar Tiasto encourage les importateurs de lait d'Indonésie ainsi que les exportateurs de lait de l'Union européenne à rechercher des solutions liées au discours d'adoption des taux de droits d'importation. La déclaration du ministre Enggar Tiasto a été transmise aux médias en marge du dialogue sur les infrastructures entre l'Indonésie et l'Afrique, tenu à Nusa Dua, Bali, mercredi, en réponse à la désapprobation des associations des professionnels du secteur des produits alimentaires et des boissons pour l'imposition des droits de douane pour les produits laitiers brous.
Mari kita melihat kepentingan merah. Apakah sebagai bangsa kita mau diperlakukan seperti ini?
Allons examiner des intérêts de rouge blanc, que notre pays soit traité comme ça ou pas. Je ne veux pas, en ce sens que le contrat doit être résilié, puis que les tarifs sont si élevés que le coût de production augmente. Ce n'est pas ça. Et c'est mon explication à l'importateur. Mais spécifions ce dont vous avez besoin. Eh bien, nous établissons des relations commerciales avec les exportateurs américains. Les essayons, recherchons la solution idéale. Selon Engartia Stolukita, le discours sur l'imposition des droits de douane à l'importation sur les matières premières laitières importées de l'Union européenne montre clairement à l'Union européenne que l'Indonésie peut également appliquer une politique similaire aux produits importés de l'Union européenne. Selon lui, l'Union européenne a appliqué un protectionnisme à l'encontre de son secteur, si bien qu'elle a adopté à plusieurs reprises des politiques préjudiciables à certains produits indonésiens, notamment l'huile de palme. Le gouvernement indonésien examine actuellement le discours sur la mise en œuvre des droits d'importation. La Guinée équatoriale et l'Indonésie signent un mémorandum d'accord sur l'exemption des visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Le ministre des Affaires étrangères de Guinée équatoriale, Simeon Oyono, et la ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie ont signé un mémorandum d'accord sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques des deux pays à Nusa Dua, Bali, mercredi 21 août. Cela a été transmis par le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, Simeon Oyono, après la signature du protocole d'accord sans visa. Simeon Oyono a déclaré que l'exemption de visa pour les détenteurs des passeports diplomatiques contribuerait à la mobilité des fonctionnaires des deux pays. Nous avons signé un accord de l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques. Cet accord peut faciliter la circulation des citoyens indonésiens en Guinée équatoriale et vice-versa. Simeon Oyono a expliqué que sa visite en Indonésie renforcerait la coopération entre les deux pays. Simeon Oyono a ajouté que la Guinée équatoriale et l'Indonésie coopéraient dans les secteurs du pétrole et du gaz. Selon lui, le gouvernement de la Guinée équatoriale développera la coopération économique dans l'intérêt des deux pays. La province de Java Central exporte 300 tonnes de biscuits au Bangladesh. Le centre de Java exporte pour la première fois des biscuits produits par PT Tiga Pilar Sejahtera Sdara en collaboration avec l'Agence pour le développement international des États-Unis, USAID, jusqu'à 300 tonnes ou une valeur de 100,5 milliards de roupias au Bangladesh. Le gouverneur de Java Central, Ganjar Pranowo, a annoncé mercredi le départ des exportations du centre de quarantaine agricole de classe 1 de Semarang en Java Central, a annoncé que Java Central participait également à une réunion internationale sur la nutrition. Selon Ganjar, les livraisons de biscuits complétaient les exportations des produits agricoles effectuées par Java Central au cours du mois écoulé. Ganjar a également déclaré que pendant ce temps, Java Central continue également d'exporter des nids d'hirondelles d'une valeur de 4,2 milliards de roupies. 28 kg de feuilles de gelée d'herbe en Malaisie, 3,4 tonnes de sucre brun à Sri Lanka et de la margarine au Bangladesh jusqu'à 1,2 tonnes. Les produits agricoles ont largement contribué à la balance commerciale du centre de Java, car ils ont exporté pour une valeur totale de 586 milliards de roupias depuis le 1er août 2019. Le Stade international de Jakarta devrait devenir le lieu final de la Coupe du Monde moins 20 ans. Le stade BMW, ou officiellement nommé Stade international de Jakarta, GIS, devrait être l'un des sites de la finale de la Coupe du Monde 2021 des moins de 20 ans, que l'Indonésie propose d'accueillir. Le directeur du projet JakPro pour GIS, Iwan Takwin, a déclaré mercredi à Beijing que le concept de stade était conforme aux normes de la Fédération internationale de football. Le complexe de stade, a déclaré Iwan, aura une superficie totale de 300 000 m², composée de plusieurs bâtiments. Non seulement les bâtiments du stade, mais également les installations d'entraînement, les galeries d'histoire du football, les bâtiments artistiques, les activités de divertissement, les installations de loisirs et autres, y compris le transport en commun intégré au train de banlieue. Pour le stade lui-même, Iwan pourra accueillir 82 000 spectateurs, l'un des plus grands d'Indonésie, aura une hauteur de bâtiment de 70 mètres ou équivalent à un appartement de 24 à 25 étages équipé de diverses installations de soutien. Iwan a ajouté, jusqu'à ce jour, la FIFA avait continué de suivre l'évolution du développement du stade, en particulier en ce qui concerne les spécifications des constructions et le concept de stade. Chers auditeurs, c'était les nouvelles. Bonsoir, chers auditeurs, voici le commentaire. Le dialogue sur l'infrastructure est une réalisation des relations plus étroites entre l'Indonésie et l'Afrique. Après avoir organisé avec succès le premier forum afro-indonésien organisé du 10 au 11 avril 2018 à Bali, l'Indonésie organise à nouveau un événement intitulé « Dialogue Indonésie-l'infrastructure ». Ce forum est une continuation du forum afro-indonésien 2018. Le premier forum afro-indonésien a constitué un nouveau jalon pour la coopération afro-indonésienne, car il a non seulement renforcé les relations existantes entre l'Indonésie et l'Afrique établies depuis la conférence afro-asiatique en 1955, mais a également ouvert de nouvelles perspectives de coopération économique. L'histoire montre que des relations entre l'Indonésie et l'Afrique ont été établies depuis la tenue de la conférence afro-asiatique à Bandung, Java occidentale, en 1955. Les relations afro-indonésiennes ont été suivies de la tenue du sommet afro-asiatique en 2005, de la conférence afro-asiatique en 2015, du forum afro-indonésien en 2018 et du forum de dialogue sur les infrastructures en Afrique 2019. Tout cela montre que le partenariat de l'Indonésie avec les pays africains se resserre, se renforce et profite à tous. Les visites bilatérales entre les chefs d'État et de gouvernement, les hauts responsables et le noyau de la communauté économique se déroulent également de manière dynamique et sont une réelle utilité pour le progrès de l'édification conjointe des nations. Dans le Forum afro-indonésien 2018, l'infrastructure est un des problèmes les plus mis en avant, car l'Indonésie et l'Afrique considèrent ce secteur comme une priorité majeure pour le développement futur. Par conséquent, le dialogue afro-indonésien sur les infrastructures s'est tenu dans le cadre duquel l'Indonésie et les pays de la région africaine se sont réunis et ont débattu du potentiel des coopérations. À l'évidence, le forum de dialogue de 2 jours a abouti à des résultats concrets tels que des accords de coopération entre l'Indonésie et plusieurs pays africains. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a également exprimé sa satisfaction devant les résultats du dialogue Indonésie-Afrique sur les infrastructures qui a abouti à un accord commercial de 822 millions de dollars, dépassant les 186 millions de dollars enregistrés l'année dernière. Le nombre d'accords commerciaux conclus dans le cadre de ce forum de dialogue pourvu que la confiance des pays africains en Indonésie est encore plus grand. Espérons que le dialogue Indonésie-Afrique sur les infrastructures pourra élargir la coopération entre l'Indonésie et les pays africains et accroître la connectivité et les contacts interpersonnels entre l'Indonésie et les pays africains. Serge Litar, c'était le commentaire.
Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 22 août. On commence par la création du Comité national indonésien, le 22 août 1945. Le Comité préparatoire à l'indépendance de l'Indonésie, en indonésien Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, abrégé en PPKI, le Comité chargé de préparer l'indépendance de l'Indonésie, a formé le Comité national indonésien le dernier jour de la session qui s'est tenue le 22 août 1945. On a compilé le Comité national indonésien du niveau central au niveau régional. Au niveau central, il s'appelle le Comité national indonésien central, en indonésien Comité national Indonésia Pusat, ou abrégé en KNIP, et au niveau régional, il a été organisé jusqu'au niveau de quartier. Les membres du KNIP, comprenant des chefs de communautés de divers groupes et régions, y compris d'anciens membres du PPKI, ont prêté serment le 29 août 1945. Ce comité national central est le précurseur de l'agence législative indonésienne, car il est chargé de rédiger des lois. Toujours à la même époque, notamment lors de la session du PPKI le 22 août 1945, on a formé l'Agence de sécurité du peuple. L'Agence de sécurité du peuple, en indonésien Badan Keamanan Rakyat, ou abrégé en BKR, a été la première force armée qu'on ait formée après l'indépendance de l'Indonésie. La création du BKR a été annoncée par le président Sukarno le 23 août 1945. À cette époque, les membres du BKR comprenaient des jeunes indonésiens qui avaient auparavant reçu une formation militaire en tant que soldats de Heiho et défenseurs de la patrie. Par le décret présidentiel du 5 octobre 1945, le BKR, on l'a transformé en armée de la sécurité du peuple. Au cours de son développement, les forces armées indonésiennes ont subi plusieurs changements de nom pour devenir finalement l'armée nationale indonésienne. Nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec l'incident du vol CN2 de Bulkovo Airlines qui a eu un incident le 22 août 2006. Le vol CN2 de Bulkovo Airlines est un vol de Napa à Saint-Pétersbourg, en Russie. L'avion s'est écrasé dans l'est de l'Ukraine, près de la frontière russe. Cet accident a tué tous les passagers, 160 passagers et 10 membres d'équipage. Outre la Russie et l'Ukraine, des passagers des Pays-Bas, d'Allemagne, de France et de Finlande ont également été enregistrés. C'est toute l'histoire d'aujourd'hui.
Dialam Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Terbang Tinggi untuk Indonesia, chantée par Niji. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie, ayant pour le titre La conservation des plantes et des animaux sauvages à la 18e COP site. Coïncidant avec le 74e anniversaire de l'indépendance de la République d'Indonésie, la 18e conférence des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ou COP18, à savoir la Conférence mondiale régissant le commerce des plantes et des animaux sauvages, a été ouverte officiellement à Genève, en Suisse, le 17 août dernier. Accueillant l'anniversaire de l'indépendance de l'Indonésie, puis le premier jour de la suite de la COP18, l'Indonésie a organisé un événement parallèle sur le thème des initiatives de conservation de l'Indonésie, résoudre le commerce illégal d'espèces sauvages et renforcer le système de marché légal. Cet événement parallèle a pour but de faire connaître les efforts déployés par l'Indonésie pour la conservation des plantes et des animaux sauvages en renforçant les politiques et un système commercial légal et durable conformément à la convention CITE. L'ambassadeur Hassan Klep, représentant permanent de la République d'Indonésie auprès de l'Organisation des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et d'autres organisations internationales à Genève, a déclaré dans son discours liminaire que le commerce illégal d'espèces sauvages était un défi mondial qui exigeait une attention très sérieuse. La collaboration est la clé pour renforcer et accélérer les actions visant à relever le défi du commerce illégal d'espèces sauvages qui continue de développer. Les diverses réactions et discussions qui ont eu lieu au cours de l'événement parallèle de ce jour sont devenues un moyen de recueillir les avis et les points de vue des partis afin d'accroître l'efficacité des politiques et de l'exploration de ces politiques dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Ardi Risman, chef de la division de la sécurité et de la prévention des forêts à Sumatra de la Direction générale de l'application de la loi du ministère de l'Environnement et des forêts, a déclaré que le gouvernement indonésien avait également traité de 147 cas et que 170 d'entre eux avaient été traités plus avant à P21. En ce qui concerne la criminalité liée aux espèces sauvages, l'Indonésie a également découvert au cours des trois dernières années le commerce illégal en ligne de plus de 99 espèces d'animaux. Cet effort est grâce à la collaboration et le soutien de divers partenaires gouvernementaux, y compris les ONG. En outre, Clarissa Di Arida du Centre pour la biodiversité de l'ASEAN a exprimé sa gratitude pour les efforts du gouvernement indonésien et est disposé à continuer à soutenir les efforts de conservation dans la région de l'Asie du Sud-Est, y compris l'Indonésie. Pendant ce temps, le représentant de la Chine, Yuan Liangchen, l'administration nationale chinoise des forêts et des prairies, dans son message a également mentionné que l'Indonésie et la Chine ont eu la coopération liée aux questions de la foresterie ainsi que la mise en œuvre de la CITE. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Crazy Over You par Rini Wulandari. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. C'est Xavier, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à faire le tourisme culinaire à Banyuwangi, Java Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de RRI, La Voix d'Indonésie. Plus d'avoir une variété de belles et intéressantes sites touristiques, Banyuwangi, que se situe dans l'est de Java, a également une variété de délicieux plats locaux. L'un d'entre eux est Duri Tempong, connu comme Sego Tempong. Duri Tempong se compose de riz, de légumes bouillis et une variété de plats d'accompagnement. Les légumes bouillis sont entre autres les épinards, les soucis, aboutillon, le chou, les haricots, la laitue, les feuilles de manioc et les feuilles de basilic. L'option de plat d'accompagnement peut être le poulet, sakade, daba, tempeh frites, tofu frites, une variété de fruits de mer et les œufs. Le riz bouilli avec une variété de légumes et de plats d'accompagnement sont mangés avec la sauce crue. La spécialité de cette alimentation locale est dans la sauce typique car elle est formulée spécifiquement en utilisant des matériaux spéciaux à savoir les tomates rantilles. La tomate rantilles est celle cauteuse de surface avec plus de graines que les tomates habituelles. Quand elle est utilisée, le plus souvent les graines sont nettoyées. On seulement consomme la peau et la chair de fruits. La peau et la chair de tomate rantilles est ensuite pulvérisée avec le poivre de cayenne, le sel, le sucre et la pâte de crevette. Puis ajoutez le jus de citron. Cette sauce crue était très épicée. On peut directement goûter la saveur épicée quand on mange la sauce. En même temps, le goût frais de piment et de tomate rantilles sent aussi. Parce que c'est tellement épicé, les gens qui goûtent la sauce avec du riz, des légumes et plats d'accompagnement sans qu'ils les giflent. C'est pourquoi cette culinaire locale est nommée Duri Tempong. Dans la langue de l'ethnie Osing, l'autochtone de Banyuwangi, Tempong signifie gifle. exemple de l'alimentation quotidienne, de que tempon est aussi fréquemment servi à la récitation et de remerciement. Ce n'est pas difficile de trouver cette culinaire parce que tous les stands de Tomonokitour à Banyuwangi fournissent ces go tempon. Cette alimentation est vendue du matin au soir. Il en coûte environ 7 000 jusqu'à des dizaines de mille roupias, selon le type de plat d'accompagnement sélectionné. Pour ceux d'entre vous qui visitez Banyuwangi et veulent goûter de ce go tempon gratuitement dans les prochains jours, précisément le 28 mars, un festival intitulé Festival Sego Tempong se tient au Parc Blambangan. Le festival présente non seulement le culinaire de Ri Tempong, mais aussi d'autres culinaires locales de Banyuwangi comme Sego Chawu, Rujak Soto, Soto Using, Pecel Rawon, Pecel Piti et Pule Epice. Le festival Sego Tempong fait partie du développement du tourisme culinaire étant lancé par le gouvernement Banyuwangi d'habiliter les gens comme des acteurs économiques. Avec ce festival, il est souhaitable que le goût de la province de Sego Tempong va s'améliorer. Le festival de Sego Tempong est divisé en plusieurs catégories, entre autres des marchands de dépôt, hôtels et restaurants. Lorsque la course, ils porteront un tablier qui lit J'aime Banyuwangi et coiffeur à la chef. Ils seront en compétition pour apporter le goût, la propriété et une façon intéressante de présenter. En convoquant cette course, le gouvernement local veut marquer des stands de Sego Tempong afin que le public puisse connaître directement que le dépôt de Sego Tempong est le plus délicieux et propre. Secrétaire, c'était le magazine culturel pour ce soir, intitulé Sego Tempong. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt. Chers auditeurs, c'était la chanson de Dera intitulée Le Bi Inda. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur en formant sur Triathlon Ironman 70.3. Bintan organise à nouveau un événement de tourisme sportif de niveau international intitulé Triathlon Ironman 70.3. Le tourisme sportif, qui fait partie du calendrier des événements 2019 du ministère du Tourisme, s'est tenu le 25 août 2019 sur la Plaza Lagoy en résidence Bintan, en province des îles Riau. La compétition mondiale de la triathlon longue distance est ouverte aux athlètes amateurs et aux athlètes d'élite pour compéter dans le championnat mondial d'Ironman 70.3 qui se tiendra à Taupo en Nouvelle-Zélande en 2020. Ironman 70.3 fait partie des séries de championnats de triathlon organisés par la Société mondiale de triathlon WTC. Le chiffre 70.3 indique la distance totale disputée, soit 113 km, soit 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 km de parcours. Dans la première étape de la course, intitulée Conditions de baignade parfaite, tous les participants doivent nager dans les eaux de la baie Lagoy. Après cela, poursuivez avec le parcours cycliste spectaculaire en entour. Au cours de cette seconde étape, les participants emprunteront une route sinueuse traversant la partie nord-ouest de l'île. Après parcours environ 90 km, les participants montent à la dernière étape. Parcours scénique. Ils effectueront deux tours avec vous sur la baie Lagoy. Cette année, il y aura un léger changement par rapport aux années précédentes. Le premier changement concerne le système de démarrage progressif dans la natation. Dans ce cas, les participants sont divisés en plusieurs groupes de 4 personnes qui seront libérées toutes les 6 secondes au debout. La modification remplace le système de débarras simultané de l'année précédente. Puis, cette année, le comité a fourni un certain nombre de points pluie qui vaporisent de l'eau sur la piste de course pour rafraîchir les participants. Au total, 882 participants de 55 pays se sont inscrits à la compétition sportive Triathlon Ironman 70.3. Ils viennent de Singapour, d'Indonésie, d'Australie, de Grande-Bretagne, des Philippines, du Japon, d'Inde, de France, de Nouvelle-Zélande et des États-Unis. Il est prévu que près d'1 200 participants animeront cet événement. Lors du concours, les participants ne sont pas seulement invités à profiter de la magnifique côte Bintan, des collines verdoyantes, mais ils ont également la possibilité d'explorer le village à Bintan. Rizky Handayani, agent au développement du marketing au ministère du Tourisme, a déclaré que le tourisme sportif aurait un impact positif direct sur le secteur du tourisme et sur l'économie de la région. Les participants examineront de plus près le visage de Bintan et profiteront de tout ce qui est présenté. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À demain. Oh,
bawah sinar mentari, hati kita menari. Sambut musim cinta bersemi. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu. Aku di alam mimpi hingga waktu terhenti. Ku ingin aku ada di sini. Kau dan aku mungkin tahu cinta kita satu.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée So In Love, chantée par Marion Jola. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonsoir, chers auditeurs de la Voix d'Indonésie, voici le magazine musical. Aujourd'hui, nous allons écouter une chanson de langue du groupe de garçons célèbre dans les années 1990 en Indonésie, M.E. M.E. est une abréviation de la langue soudanaise, à savoir Mbong Ele, ce qui signifie qu'il ne veut pas perdre. Le groupe de garçons formé en 1997 compte 5 membres, à savoir Denis Saba, Diden Petra Sakti, Irawan Mirza, Ferry Iskandar et Widi Cipta Utomo. Une chanson à succès qui a permis à M.E. d'atteindre le sommet de sa célébrité était la chanson intitulée « Chez l'amour ». La chanson publiée en 1998 raconte l'histoire d'un homme qui ressent la beauté de tomber amoureux. Il ressentait du bonheur et le désir de toujours être avec sa petite amie qui était aimée. Bon, chers auditeurs, voici donc la chanson du groupe de garçons M.E. avec sa chanson intitulée « Chez l'amour ». Bonne écoute et à demain. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Tunisia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.